Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, Nicolas Sarkozy en mode silence au procès des sondages de l'Élysée. L'ancien président a répondu à sa convocation, mais pas aux questions du juge. Salah Abdeslam affiche de la décontraction pour son premier interrogatoire au procès des attentats du 13 novembre. La cour cherche à cerner la personnalité du principal accusé. Nouveau chapitre dans la crise des sous-marins. Cette fois, c'est un SMS qui met de l'huile sur le feu. Un SMS d'Emmanuel Macron au premier ministre australien, divulgué dans la presse britannique, ce qui a le don d'irriter l'Élysée. Protéger les forêts pour sauver le climat, c'est une partie de l'équation à la COP26. 100 pays s'engagent contre la déforestation. La météo de ce mercredi, Marlène Duret vous annoncera tout à l'heure un rafraîchissement des températures. Après ce journal, on reviendra dans Top à Wall Street sur ce record historique à la Bourse de Paris, le CAC 40 qui frôle les 7000 points. Et sous cet angle, le Covid paraît déjà bien loin. Le silence pour toute réponse. Nicolas Sarkozy a honoré ce mardi sa convocation au procès des sondages de l'Élysée. Il était convoqué en tant que simple témoin en raison de son immunité présidentielle et c'est précisément au nom de celle-ci que l'ancien président a refusé de répondre à toutes les questions du juge. Nicolas Sarkozy a finalement quitté le tribunal moins d'une heure après son arrivée, mais pas avant d'avoir dit sa façon de penser, Marion Gauthier.
Il est arrivé mâchoire serrée, ses mises en place, jambes légèrement écartées. Nicolas Sarkozy se dresse face au tribunal. « J'ai toujours respecté l'institution judiciaire », répète-t-il à l'envi. Formule courtoise qui précède systématiquement des reproches. Celui d'avoir appris sa convocation par la presse. Celui de s'être soumis à une décision disproportionnée. L'ancien locataire de l'Élysée fait valoir l'immunité présidentielle. « Je n'ai pas le droit de venir m'expliquer sur la façon dont j'ai organisé mon cabinet », tense-t-il, haussant la voix et ses épaules régulièrement. Le président du tribunal reste impassible, embraye sur l'interrogatoire. « Je n'ai pas l'intention de violer la Constitution », lâche Nicolas Sarkozy. « C'est votre interprétation », corrige le président. « Je poursuis ». Il poursuivra près d'une demi-heure, une cinquantaine de questions suivies d'un silence. « Vous refusez de témoigner », s'agace un avocat des parties civiles. « Non », soutient le témoin. « Si », appuie l'avocat. Encore un aller-retour. Et l'ex-chef de l'État tourne le dos au tribunal, non sans avoir fait part d'un grand sentiment d'injustice.
Marion Gauthier au procès des sondages de l'Élysée. On est entré dans une nouvelle phase aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre. Pendant plus d'un mois, la cour d'assises spéciale de Paris a pu saisir toute l'horreur des attaques à travers les témoignages de victimes. Cette semaine, la cour veut maintenant cerner la personnalité des accusés. En premier lieu, celle de Salah Abdeslam. C'était aujourd'hui son premier interrogatoire. Gladys Laffitte, vous avez entendu Abdeslam se raconter avec beaucoup de décontraction.
Ah oui, Salah Abdeslam est très à l'aise à la barre et le président semble prendre des précautions dans ses questions pour ne pas le braquer. Contrairement au premier jour, l'accusé parle de ses parents, décrit sa mère, femme au foyer, et son père, conducteur de tram. De son enfance, il dira qu'elle est très simple. Au sein d'une fratrie de cinq ou régnait une bonne ambiance. Brahim, l'un des tireurs des terrasses, était son frère préféré. Pourquoi ? L'amour n'a pas de logique, dit-il. Diplômé en électromécanique, il travaille comme intérimaire. J'étais à l'école publique, j'ai été imprégné par les valeurs occidentales. Son casier judiciaire est parsemé de délits routiers. J'aime la vitesse, c'est pour ça, blague Salah Abdeslam. La salerie, comme lorsqu'il essaye de casser cette image d'un accro au casino et amateur de boîtes de nuit, je n'étais pas un très bon danseur. Ce ton détendu semble aussi être utilisé comme mode de dialogue par le président. Il demande à l'accusé s'il se rappelle avec qui il a été condamné pour une tentative de cambriolage en 2011. Je ne souhaite pas m'étaler sur ce sujet, dit-il. Eh ben moi je vais le dire, s'exclame le président, avec Abdelhamid Abaoud. Silence et sourire en coin du côté de l'accusé, cet ami d'enfance est le coordonnateur des attentats du 13 novembre.
Gladys Laffitte, vous avez rencontré cet après-midi Arthur Desnouveaux, le président de l'association de victimes Life for Paris, qui ne veut pas être dupe de ce nouveau visage montré par Abdeslam.
On sent qu'il a un discours très lisse et très calme et qu'il a sûrement réussi à être bien briefé par ses avocats et qu'il a adhéré à la ligne qu'ils ont voulu lui faire suivre. Ce qu'on entend là, c'est quelque chose qui est plus facilement préparable, où il n'y a pas d'émotion. Finalement, ils savent exactement sur quoi ils vont être interrogés, ils savent exactement sur quoi ils vont être confrontés. On sait qu'en janvier, il peut jaillir d'autres choses. On sait que parmi les gens qui vont parler à la barre, il y a leur famille. On espère que ça puisse provoquer des réactions qui soient un peu différentes et moins aseptisées. Mais c'est toujours difficile de prévoir quoi que ce soit dans ce genre de procès, de toute façon.
Arthur Desnouveaux, président de Life for Paris, une association de victimes à la cour d'assises spéciale de Paris. Il a suffi d'un SMS pour relancer la crise des sous-marins, mais pas n'importe lequel. Un SMS d'Emmanuel Macron au Premier ministre australien qui a fuité dans la presse britannique avec beaucoup d'agacement côté français. Le message peut laisser croire que la France savait que le contrat de sous-marin était menacé avant l'annonce officielle de sa rupture. Jacques Seret, alors, qu'est-ce qu'il dit ce SMS ?
Eh bien, texto en anglais. « Dois-je m'attendre à de bonnes ou de mauvaises nouvelles pour notre ambition conjointe sur les sous-marins ?» Voilà ce qu'a écrit Emmanuel Macron au Premier ministre australien deux jours avant la dénonciation du contrat mi-septembre. La fuite de ce SMS dans la presse intervient alors qu'il y a 48 heures, le président français déclarait que Scott Morrison lui avait menti, qu'il lui avait caché son intention de rompre ce contrat de 55 milliards d'euros. Cette fuite ressemble donc très fortement à une riposte des autorités australiennes, manière pour eux de sous-entendre que la France était au courant, ce qui est catégoriquement démenti par l'Élysée. Cela montre justement que l'on ne savait pas, insiste un conseiller. La France avait simplement eu écho des inquiétudes, des préoccupations des Australiens, d'où ce SMS d'Emmanuel Macron fait valoir un autre. Une certitude ce soir, la relation avec l'Australie est au plus mal. La divulgation de ce message privé est inacceptable, peste l'entourage d'Emmanuel Macron qui dénonce des méthodes très inélégantes.
Jacques Seret du service politique d'Europe 1. C'est une campagne qui fait polémique. Des affiches diffusées par le Conseil de l'Europe affirment que la liberté est dans le hijab. Elles présentent le voile islamique comme un choix. Elles appellent à le respecter comme un élément de la diversité. L'Union européenne est une institution distincte du Conseil de l'Europe, mais elle cofinance cette campagne. Invité ce soir sur France 2, le candidat Michel Barnier, ancien commissaire européen, demande le retrait de ces affiches.
La campagne évoquant le hijab comme un outil de liberté est absolument inapproprié. Il faut qu'elle s'arrête, cette campagne.
Inapproprié, c'est un mot anglais, oui, très mais, soft.
Oui, soft, si vous voulez. En tout cas,
faut la retirer, en tout cas.
Je trouve qu'il faut la retirer. Je viens de vous le dire. Moi, je suis pour la liberté de conscience. Je suis pour la liberté de religion. C'est même l'article 1 de la Constitution française. Il faut tenir compte de cela. D'ailleurs, la laïcité, qui est une grande valeur de notre République, doit être absolument consolidée. J'aurais souhaité que les gens qui ont eu cette mauvaise idée de cette campagne aillent interroger, s'ils l'avaient pu, les femmes de Kaboul dont vous avez parlé tout à l'heure, qui elles se battent pour précisément ne pas être avec ce voile, parce que le voile n'est pas en question, n'est pas un instrument de liberté des femmes, c'est le contraire.
Michel Barnier, ce soir aux 20h de France 2.
Europe Nuit, Alexandre Lemaire.
La mesure se veut un coup de pouce pour aider les jeunes les plus précaires à se lancer dans la vie active. Emmanuel Macron et Jean Castex ont présenté ce matin les contours de cette nouvelle allocation qui pourra atteindre 500 euros par mois. Elle est présentée désormais comme un contrat d'engagement jeune. Et ici, chaque mot a son importance, Carole Ferry.
Alors attention, hein, Emmanuel Macron ne parle plus de revenu d'engagement, mais bien de contrat d'engagement. Une nuance loin d'être anodine. L'idée, c'est vraiment de faire entendre que cette aide de 500 euros par mois ne sera pas versée sans contrepartie. Le contrat prévoit que les bénéficiaires s'engagent à suivre une formation ou un accompagnement de 15 à 20 heures par semaine avec un conseiller unique. Formation à un métier ou accompagnement pour apprendre à écrire une lettre de motivation, passer un entretien d'embauche par exemple. Et si l'assiduité fait défaut, eh bien l'allocation pourrait être suspendue. Alors ce contrat va remplacer la garantie jeune. Il sera proposé à partir du mois de mars prochain, sous conditions de ressources, aux jeunes très éloignés de l'emploi, sans qualification, sans emploi ni formation depuis plusieurs mois. Il était prévu au départ pour toucher 1 million de jeunes, ce sera plutôt 400 000. 900 emplois vont être créés à Pôle emploi pour suivre ces bénéficiaires. Les missions locales verront, elles, leur budget augmenter de 75 millions d'euros.
Merci Carole Ferry. L'avenir nous dira si les bénéficiaires de ce contrat d'engagement vont aussi profiter de la reprise. On en a ce soir un signe flagrant de cette reprise économique, car la Bourse de Paris a battu un record de plus de 20 ans. C'est comme si la crise du Covid n'avait jamais existé. Le précédent record du CAC 40 remonte exactement au 4 décembre 2000, c'est-à-dire juste avant l'explosion de la bulle technologique, Emmanuel Duteil.
Oui, hein, le CAC 40 est le dernier des grands indices boursiers à retrouver son niveau d'avant-crise. Une époque d'euphorie où il suffisait de mettre un .com pour lever des millions d'euros. Là, les ressorts de la hausse sont très différents. Il y a déjà beaucoup d'argent disponible grâce aux mesures de soutien exceptionnelles des banques centrales. Et c'est aussi la bonne santé des entreprises qui profitent à plein de la reprise, boostée par une vaccination de masse dans les pays développés, qui explique cet envol. L'indice CAC 40 a progressé progressé d'environ 25% depuis le début de l'année. Les valeurs bancaires sont en forte hausse, le luxe avec LVMH et Hermès Caracol aussi. Même la bonne vieille industrie, très en pointe aujourd'hui sur la transition écologique, comme Schneider ou Saint-Gobain, connaissent des progressions très fortes. Alors tout le monde se pose maintenant la même question, est-on face à une nouvelle bulle? A-t-on touché les plus hauts? Les investisseurs sont pour le moment confiants pour l'avenir.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. On part maintenant pour la COP26 à Glasgow, où 100 pays se sont engagés aujourd'hui à stopper la déforestation à l'horizon 2030, y compris le Brésil de Bolsonaro, où la forêt amazonienne est très menacée. Mais la promesse est jugée trop molle, en particulier par les défenseurs de l'environnement qui craignent que l'économie, une fois de plus, passe avant l'écologie. La France elle-même importe toujours des produits issus de la déforestation, Louise Salé.
Oui, la France est responsable d'1% de la déforestation mondiale et l'Union européenne de 10%. En cause, le soja, la viande d'origine latino-américaine, l'huile de palme et le cacao. Alain Carcenti est économiste en agronomie.
Il faut bien penser d'abord qu'il y a l'alimentation de notre bétail. C'est-à-dire que une bonne partie du soja, tout le soja n'est pas impliqué dans la déforestation, mais une bonne partie du soja que nous importons est impliquée soit dans la déforestation, soit dans la conversion, la destruction d'écosystèmes naturels très riches en biodiversité, qui sont les cerrados brésiliens, et qui, de ce point de vue, posent un problème.
10% de déforestation à cause des Européens, ça peut paraître peu, mais c'est assez pour influencer le marché mondial si les importations sont taxées. Encore faut-il certifier qu'un produit a ou n'a pas contribué à raser une forêt. L'Union européenne devrait proposer pour cela une certification zéro déforestation d'ici un mois.
Louise Salé, l'envoyé spécial d'Europe 1 à la COP26 à Glasgow. Ce soir, Joe Biden reproche ouvertement au président chinois Xi Jinping d'avoir séché le sommet. Il a commis une grave erreur, estime le président américain. La Chine, premier pollueur de la planète. De quoi vous épargner quelques prises de bec avec vos amis sur Facebook. Le réseau social arrête la reconnaissance faciale. Cette fonction qui permet d'identifier une personne sur des photos ou des vidéos postées sur Facebook. Le groupe de Mark Zuckerberg va aussi effacer les données de reconnaissance faciale donc, qui ont été accumulées sur plus d'un milliard de personnes. La nouvelle a été reçue comme un énorme coup de massue pour des millions de fans de jeux vidéo chinois. Le mastodonte en ligne Fortnite ne sera bientôt plus accessible en Chine. Le pouvoir chinois serre la vis actuellement dans le secteur du numérique. Pékin se montre très pointilleux sur les questions de concurrence et de données personnelles. Premier à en faire les frais donc, le jeu vidéo, comme l'explique Julien Pilot, enseignant-chercheur à l'Institut des hautes études économiques et commerciales.
Parmi le paquet de mesures que le gouvernement a mis en place, ils ont mis aussi des mesures qui sont spécifiques aux jeux vidéo. Et notamment l'une d'entre elles qui consiste à limiter le temps de jeu pour les mineurs chinois à 3 heures par semaine sur les jeux en ligne. Bon, 3 heures par semaine sur un jeu comme Fortnite, ça permet pas nécessairement de pouvoir recouvrer des investissements. Si vous faites ce genre de business model-là, c'est aussi pour que les joueurs passent le maximum de temps sur votre jeu. Si la loi ne le permet pas ou ne le permet plus, quelque part, les investissements que vous pourriez faire qui sont spécifiques au marché chinois, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir les recouvrer. Donc, autant arrêter les frais, en fait.
L'économiste Julien Pilot avec Romain Hollande. Fortnite est un jeu très addictif, en particulier chez les mineurs. Il totalise plus de 350 millions de joueurs dans le monde. Novak Djokovic entre en piste ce soir au Masters 1000 de Paris-Bercy. Et après de longues semaines d'absence, le numéro 1 mondial a visiblement l'intention de rappeler qui est le patron, Axel May.
Oui, et il est vraiment le patron. En plus, à Bercy, il a remporté 5 fois ce tournoi. C'est un record hein, pour le numéro 1 mondial. Et puis, il sait que s'il fait une bonne performance, il aura quasiment assuré une nouvelle saison en tant que numéro 1 mondial. Là, il est opposé à Marton Fuchkovic, un Hongrois. Il a pas traîné. Hein. 6-2 dans la première manche. C'est un petit peu plus serré pour l'instant dans la deuxième manche, mais qui débute juste hein, un jeu partout entre les deux hommes. Et c'est Novak Djokovic qui est au service. Djokovic, donc, qu'on avait déjà vu, hein, le public avait déjà vu hier son retour, c'était en double, mais là, c'est vraiment son premier match en simple depuis cette cruelle finale perdue à l'US Open en septembre dernier.
Richard Gasquet et Pierre-Hugues Herbert sont éliminés, Axel, mais tout n'a pas été noir pour les Français. Hein. Gaël Monfils a franchi, lui, le premier tour.
Oui, Gaël Monfils, même le deuxième tour, puisqu'il était en raison de son classement dispensé de premier tour. Et Gaël Monfils, c'est un autre Serbe qui l'a battu, Miomir Krešmašinović, 22 ans, et il était évidemment extrêmement satisfait de sa performance devant son public parisien, Gaël Monfils.
forcément, je suis content de rejouer à Paris avec beaucoup de public. On a expérimenté pas mal ces derniers temps dans d'autres pays, et de le faire ici à Paris, c'est vraiment cool et c'est bien. Et voilà, je suis content d'avoir aussi pu gagner. Donc non, je suis vraiment content.
Voilà, content, il l'a dit, il l'a répété, Gaël Monfils, et au prochain tour, il rencontrera un autre Français, Adrian Manarino. Autrement dit, il y aura forcément un tricolore en huitième de finale à Bercy.
Axel May, merci Axel à la Corotel Arena pour Europe 1 pour ses Masters 1000 de Paris-Bercy. Lille mène ce soir face à Séville 2-1 en Ligue des Champions. C'est un match décisif pour le LOSC qui cherche à se qualifier alors qu'il occupe la troisième place du groupe G. Demain, à Leipzig, le PSG devra faire sans Messi, Lionel Messi forfait en raison de douleurs au genou et à la cuisse. En revanche, Mbappé sera de retour sur le terrain. Le temps pour ce mercredi, Marlène Duret, des pluies traversent en ce moment le pays. Alors comment ça va évoluer pour demain?
Oui, mais c'est même de bonnes pluies, Alexandre. Je peux vous dire, en ce moment, elles remontent depuis le sud-ouest vers le massif central et lyonnais. On a aussi des pluies vers le centre, Val-de-Loire, en direction de l'Île-de-France. Et tout ça va se décaler, évidemment, demain. Cette perturbation, elle va même se scinder en deux. Sa partie sud ira se bloquer vers les Pyrénées avec une limite plus neige à 1200 mètres, avec de bons cumuls dans les Pyrénées-Atlantiques. Et puis l'autre partie va continuer à se décaler. On va la retrouver, en fait, cette perturbation. Alors, on va dire de l'Alsace à la Côte d'Azur, avec de la neige en montagne à partir de 1000 mètres dans les Vosges et le Jura, des 1200 à 1500 mètres dans les Alpes, et même un petit peu moins entre le département de l'Ain et les Savoies. Vers 800 mètres, on peut avoir une bonne couche de poudreuse. On nous annonce 20 à 30 cm. Et puis dans la journée, elle va partir cette perturbation. Elle va quand même s'attarder un petit peu des Alpes à la Corse. Et puis le reste du pays devra compter avec un ciel changeant. C'est un ciel de traîne, partagé entre nuages et éclaircies. Un risque d'averse beaucoup plus prononcé près de la Manche et en Aquitaine. Et puis on peut espérer de très belles éclaircies entre le Roussillon et les Bouches-du-Rhône, en passant par le Vaucluse, le sud de la Drôme et de l'Ardèche. Quant aux températures, elles vont continuer à baisser. On vous l'avait annoncé, elles vont plafonner les maximales, généralement entre 9 et 14 degrés demain. Il fera un petit peu plus dans le sud-est, 14 à 17, et ça peut monter jusqu'à 18-20 degrés du côté de l'île de Beauté.
Merci beaucoup Marlène Duret, on vous retrouve à minuit pour un dernier point météo sur Europe 1. Dans un très court instant, ce sera Top à Wall Street avec Didier Hamot, alors que la Bourse de Paris a battu ce soir un record de plus de 20 ans. A tout de suite sur Europe.